L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, une conseillère d'orientation est avec nous. Elle est à son compte et elle se propose d'accompagner plutôt les plus jeunes, les enfants. On le sait, aujourd'hui, la vie professionnelle n'est plus un long fleuve tranquille. La carrière linéaire, toute une vie dans une entreprise, c'est fini ou presque. Aujourd'hui, on peut même envisager de changer plusieurs fois d'emploi, voire de métier au cours de sa vie. Après tout, pourquoi pas? Seulement, ça se complique. Et l'école ne nous facilite pas forcément la tâche en poussant les enfants à s'orienter très tôt, peut-être trop tôt, vers une voie qui ne sera pas forcément adaptée. En outre, il nous manque encore des études pour évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les éventuels décrochages scolaires et autres crises d'orientation. En tout cas, je n'ai pas trouvé ces études. Peut-être que notre invité en a trouvé. Bonjour Patricia Fivard.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes, enfin, votre parcours par rapport à l'activité que vous avez choisi d'exercer en tout cas?
Oui, tout à fait. Alors, à la base, je suis conseillère d'orientation auprès des publics salariés, demandeurs d'emploi. J'ai déroulé une carrière d'une trentaine d'années auprès d'un opérateur public de l'emploi.
Il n'y en a pas 36 en France.
Voilà, on peut dire, ce n'est pas une grosse devinette en effet. Et puis donc, à travers mon expérience professionnelle, j'ai vu en fait, et j'ai fait un constat de situation finalement, parce que j'ai vu des évolutions à la fois effectivement dans le monde du travail, comme vous venez de le décrire, dans le domaine de la formation professionnelle, effectivement, dans le domaine de la formation initiale aussi indirectement, puisque j'étais amenée à recevoir en tant que jeune demandeur d'emploi aussi, des jeunes qui sortaient du système scolaire, dont l'orientation pas forcément toujours effectivement très évidente, qu'ils soient, quel que soit leur niveau de formation, quel que soit leur diplôme. J'ai vu effectivement aussi les réformes successives qui ont impacté à la fois le baccalauréat, le brevet même.
Ah oui, qu'est-ce que vous avez constaté par exemple?
Globalement, le premier palier de l'orientation finalement maintenant il intervient en collège en troisième pour les jeunes, les plus jeunes vraiment effectivement très tôt. Pour qui c'est pas toujours évident de se projeter vers un avenir professionnel, c'est normal, hein, quand on est ado, qu'on est au collège, on essaye déjà de se concentrer sur le parcours scolaire. Et puis, par rapport à la réforme du bac aussi, hein, effectivement, depuis surtout 2018, la réforme Blanquer, on peut dire que là, même si auparavant, il y avait déjà des choses un petit peu compliquées avec admission post-bac, mais là, Parcoursup, la réforme du bac, les spécialités, les filières, ça fait vraiment tout un ensemble de choses qui, au niveau de l'orientation, effectivement, complexifie.
Les bacs pro ont été réformés il y a plus de temps, je crois, il y a une dizaine d'années, non? Ça, vous ne l'avez pas spécialement senti en tant que conseillère emploi?
Sur les bacs pro?
Oui.
Déjà, je pense que comme le nombre de jeunes scolarisés en bac pro est moins important que le nombre de jeunes sur les filières générales, ça a peut-être effectivement eu un retentissement un petit peu moins parlant, si on peut dire, par rapport à ça.
D'accord.
Et c'est vrai que par rapport finalement à tout ce constat de situation, puis bon, je me suis retrouvée aussi à un moment avec l'envie et le besoin de faire évoluer aussi mon parcours professionnel, hein, perso en tant que conseillère, on va dire en une phrase, envie de donner du sens, ou un sens différent en tout cas à mon activité, me recentrer vraiment sur du conseil individuel et renforcé. Je me suis dit que par rapport à tout ça, il y avait vraiment un besoin et des services à apporter finalement aux plus jeunes en amont de la recherche d'emploi.
Ouais, c'est ça, plutôt aux plus jeunes en fait, c'est ça.
Et en amont vraiment de l'insertion professionnelle et de la recherche d'emploi, parce que c'est vrai que toute cette complexification, si on peut le dire, a créé un besoin vraiment qui est exprimé de plus en plus par les jeunes et les familles.
Alors qu'il y a normalement des conseillers, conseillères d'orientation dans les établissements scolaires qui viennent, non? Il me semble.
Oui, tout à fait. En fait, au niveau du service public de l'éducation nationale, il y a donc les conseillers. Alors, c'est pas tout à fait l'appellation de dire conseiller d'orientation, puisque la véritable appellation, c'est psychologue éducation nationale. Donc, ils sont rattachés au CIO, Centre d'information et d'orientation. Donc, effectivement, c'est leur mission principale. Enfin, ça fait partie de leur mission, hein, dédiée.
Ah oui, c'est pas leur unique mission, en fait. S'ils sont psychologues, ils peuvent aussi intervenir pour d'autres catégories, en fait.
pas donner plus d'infos sur ça. J'aurais peur d'être trop approximative ou de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est leur mission de conseiller, de recevoir, de conseiller et d'informer les jeunes au niveau de l'orientation scolaire. Voilà.
Mais il n'y en a peut-être pas assez.
Ouais. C'est tout à fait ça. C'est ce que j'allais dire. Le souci, c'est que par rapport... Alors, si on fait une moyenne, je crois, nationale, par rapport au nombre d'élèves à prendre en charge par les psychologues de l'éducation nationale, on arrive à 1600 ou 1700 élèves. Donc, c'est vrai que...
Par
conseiller, voilà. La charge est très importante, finalement, ce qui ne permet pas forcément de répondre à des attentes où il y a des besoins vraiment de suivi plus approfondi. Et d'accompagnement.
Et les centres d'information et d'orientation, les CIO, en plus, vont fermer, enfin, font...
Là-dessus, moi, j'ai pas d'infos. Je voudrais pas dire de bêtises. Je sais que, par contre, par rapport à leur nombre, comme j'ai expliqué, ben, ça ne répond pas à tous les besoins ni à toutes les demandes. Voilà.
D'accord. Donc, et alors, est-ce que vous êtes seule représentante de ce métier, donc conseillère d'orientation indépendante, ou est-ce qu'il en existe d'autres? Moi, je ne connaissais pas ce métier, hein, j'avoue.
Alors, non, je suis pas seule. Alors, c'est une profession qui, en fait, n'est pas réglementée, comme on pourrait le dire, comme par exemple pour les aides-soignantes, les infirmiers ou autres, ou même les psychologues, justement, en libéral. Donc, il y a effectivement une arrivée assez massive d'organismes privés, de conseillers privés, dans ce domaine depuis quelques années, certainement du fait de l'introduction de Parcoursup, hein, il faut bien le dire, hein, par rapport à l'orientation post-bac, hein, parce que de toute façon les familles et les jeunes ont vraiment des besoins d'être accompagnés. Mais par contre, moi, ma particularité, c'est que j'ai créé mon activité hors réseau...
hors grosse boîte privée.
Voilà, hors gros réseau national ou autre. J'ai créé mon activité dans le cadre de la coopérative d'activité et d'emploi du Finistère.
Chrysalide.
Exactement.
Dont on a déjà parlé sur Radio Évasion, mais c'est toujours utile de rappeler. Ouais, en quoi ça consiste, en gros
En fait, la coopérative d'activité et d'emploi du Finistère, c'est un regroupement donc, d'entrepreneurs de tout type d'activité. Oui, on peut le dire comme ça. Et par contre, moi, je suis la seule, dans mon domaine, par contre, dans ce domaine-là, dans la coopérative. Et donc, c'est une forme, un statut spécifique, alternatif, à la fois qui permet d'avoir une mise en commun des moyens juridiques et fiscaux. Voilà,
entrepreneur salarié, et puis bon, c'est aussi un réseau, hein, Chrysalide, comme il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs.
Tout à fait.
Voilà, vous pouvez travailler ensemble éventuellement si vous avez des recoupements de professions.
Oui, ça arrive. Après, c'est surtout la dimension, moi, ce qui m'a amené vers la CAE, c'est aussi la dimension économique et sociale, mais surtout, en fait, le fait que ça soit rattaché à l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, parce que je voulais donner, justement, un sens aussi à mon activité par rapport à cette dimension sociale.
Oui, c'est ça. Et justement, vous allez nous expliquer comment vous travaillez, parce qu'en fait, alors si les besoins que vous ressentez déjà, parce que ça fait quand même depuis septembre 2021 que vous avez créé votre activité, en gros, les demandes, c'est plutôt quoi ou vers quel âge, enfin, je ne sais pas...
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai un premier palier de l'orientation scolaire au collège en troisième, puisque il y a déjà le positionnement finalement des jeunes vers soit les filières générales, les filières professionnelles, et quand bien même en allant sur les filières générales, de toute façon, il y aura aussi assez rapidement en seconde le choix, enfin après la seconde, les options, etc. Donc c'est vrai qu'il y a déjà, pour certains, bon, ça peut être évident, ça pose pas de soucis, mais il y a déjà un premier niveau de questionnement parfois par rapport à ça. Donc il y a des demandes finalement individuelles de familles et de jeunes au niveau du collège, au niveau du lycée aussi, beaucoup forcément.
Des élèves de troisième qui auraient un profil, par exemple, qui ne serait pas suffisamment bon pour aller en général, et puis en même temps qui n'ont pas de projet professionnel, c'est ça ou
Pas forcément, ça peut être ça, mais c'est vraiment des situations où parfois les choses pourraient être claires, mais les parents sont inquiets aussi, ont besoin d'avoir une confirmation, ont besoin d'être aidés, guidés dans le choix, ou comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en troisième, ce n'est pas évident de se projeter non plus. Et en fin de compte, quand on est jeune, qu'on est ado, on a déjà pas mal de choses à construire et se construire soi-même. Et c'est vrai que sur un parcours d'orientation, de toute façon, il faut passer des étapes qui consistent en mieux identifier son potentiel, finalement, mieux se connaître pour pouvoir mieux s'orienter. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pas évident.
D'accord, donc les troisièmes, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme profil
Après, c'est... Là, pour l'instant, dans mon activité, ça a été aussi beaucoup, principalement les jeunes qui sont en orientation post-bac, enfin qui sont en terminale, et qui, donc, doivent passer les affres de Parcoursup.
Ah ouais, apparemment, c'est un gros problème. Enfin, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, mais...
C'est complexe.
Ouais, c'est ça.
C'est relativement complexe, mais surtout, en fait, il faut... Surtout pas voir Parcoursup comme étant un libre service de choix de formation. Il faut surtout bien prendre le soin d'établir la globalité d'un projet d'orientation et pouvoir identifier vraiment vers quel objectif on va aller avant de choisir comment on va y aller.
Mmh. D'autres publics encore éventuellement que vous pourriez recevoir fin...
Alors c'est vrai que là j'ai parlé finalement de prestations d'accompagnement individuel, mais je suis en train de développer aussi des prestations destinées à pouvoir informer au niveau de collectifs, comme par exemple les structures qui font l'accueil d'adolescents type animado, espace jeune, parce que c'est vrai que ce sont également des relais incontournables finalement maintenant hein, de socio-éducatifs hein, au niveau de l'accueil des jeunes, et eux se rendent compte également qu'ils sont de plus en plus amenés à avoir des questions au fur et à mesure de leur accueil avec les jeunes qui parfois sont un petit peu en galère aussi. Donc sur cette partie-là, c'est vrai que j'essaie d'introduire justement la dimension sociale de mon activité pour que par le biais de prestations collectives, d'informations, d'accueil, voilà, des choses qui se développent autour de ça, mes services ne soient pas uniquement réservés à des familles qui auraient les
moyens.
Les moyens, voilà.
Oui, c'est ça. Ah ouais. Et alors, j'imagine que vous ne vous occupez pas exactement de la même façon d'un élève de troisième, d'un jeune qui est en terminale. Alors, pour quelqu'un qui est en troisième, qu'est-ce que vous faites ? Enfin, comment vous procédez ? Sans nous donner tout le détail.
Mais... Bah, de toute façon, le principe et la méthode qui est la mienne, en tout cas, on pourrait faire un petit peu un parallèle avec ce que les adultes salariés connaissent dans le cadre d'un bilan de compétences. Parce que c'est vrai que moi, je travaille sur la base uniquement d'entretiens individuels. Je ne travaille pas de façon, on va dire, numérique, dématérialisée. Et vraiment sur un suivi, une progression, sur vraiment l'élaboration des différentes étapes du projet. Et par rapport, bien sûr, à ça, c'est avec une méthode et des outils adaptés. Il m'arrive, par exemple, très fréquemment, pour pouvoir amorcer le dialogue avec, en effet, les plus jeunes, d'utiliser des outils comme des serious games, des jeux de cartes, mais qui sont vraiment adaptés parce que, ben, bien sûr, on ne joue pas aux cartes. Hein, on utilise des choses qui sont en lien avec identifier un potentiel, des aptitudes, hein, des centres d'intérêt.
Ça veut dire que vous avez eu une formation de psychologie quand même, parce que c'est, enfin voilà, on se dit c'est quand même ça. Déjà, c'est une approche psychologique finalement de la personne.
Ah non, on peut dire j'étais formée sur le, pas vraiment, j'étais formée sur le tas à travers mon expérience de mes 30 années d'expérience en tant que conseillère en fait. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas, ma formation initiale n'est pas dans ce domaine-là.
Mais c'est, vous connaissez des méthodes quoi, intéressantes en tout cas.
Oui, bah les méthodes et les outils, on les applique au quotidien quand on reçoit de toute façon un public qui est en orientation, mais faut adapter, il faut s'adapter.
Et alors donc, quand vous avez identifié, enfin que vous avez entre guillemets joué à identifier les compétences, qu'est-ce que vous faites ?
Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet, comme je disais, d'amorcer le dialogue. Mais après, c'est vraiment plus un travail de fond sur l'accompagnement où on va vraiment passer les différentes étapes du projet pour aider le jeune à vraiment pouvoir faire ses choix, au final. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'apports d'infos.
C'est ça, voilà.
Sur, ouais. À la fois, l'environnement, on va dire, économique au sens large, parce que c'est vrai que ce soit même les lycéens, de toute façon, hein, même si y a parfois des stages d'application en entreprise, c'est quand même pas évident d'identifier les secteurs d'activité, les métiers.
Ouais, il y a plein de métiers qu'on connaît pas, enfin,
exactement,
c'est ça en fait. Quoi.
Exactement. Ouais. Et pareil parfois pour les parents, de toute façon aussi. Alors en général, quand je reçois un jeune avant de le prendre en charge sur un accompagnement, je reçois également bien sûr la famille sur un premier entretien de diagnostic. Hein. On fait un point ensemble, on fait un point global finalement de situation. Mais c'est vrai que les parents parfois aussi le disent. La représentation des métiers, des secteurs d'activité, ben, elle évolue, elle n'est pas toujours les plus fines. Donc il y a beaucoup d'apports d'informations bien sûr sur la finalité, qui est, parce que la finalité de tout étudiant, ça sera de pouvoir s'insérer professionnellement sur un métier qui lui plaît. Donc,
c'est ça.
Donc il y a aussi beaucoup bien sûr d'apports d'informations pour leur permettre de mieux appréhender aussi tout ce qui va constituer plus tard l'environnement socio-professionnel.
Mmh. Et donc, vous connaissez tous les métiers qui existent en ce bas monde, quasiment en fait.
C'est ça, ouais, en gros, tous, ouais. Non, mais bien sûr, par contre, on ne peut pas tout connaître, hein, j'aurais jamais cette prétention-là, mais forcément par l'expérience et de voir l'évolution des emplois des métiers, c'est un domaine forcément d'activité que je connais bien.
Et vous pouvez préconiser des employeurs qui prendraient des stagiaires ou enfin des... Vous connaissez aussi le tissu d'entreprise locale, parce que vous intervenez sur tout le Finistère, hein,
tout à fait, ouais. Alors oui, en effet, le tissu économique, je le connais puisque par la pratique auparavant, hein, d'avoir travaillé auprès des employeurs. Mais de toute façon, si on prend, parce que là, je pense qu'on veut parler un petit peu de l'alternance ou de la recherche de stagiaires,
par exemple,
comme ça. Si on prend de toute façon, comme pour le marché du travail classique, les chiffres, si on les prenait par rapport à finalement les recrutements sur le marché caché, marché ouvert, au niveau des offres d'emploi, on est un petit peu sur la même situation. Il y a aussi beaucoup de démarches à faire en spontané. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour des jeunes. Et c'est vrai aussi, je vais peut-être faire un peu une digression, mais Parcoursup a introduit justement une dimension où on est obligé de rentrer un petit peu dans les techniques de recherche d'emploi aussi, parce que dans certains cas, les jeunes vont avoir des entretiens de sélection sur les formations sélectives aussi.
Une lettre de motivation.
Exactement. Donc c'est vrai que connaître le tissu économique local, régional, forcément c'est un incontournable, ne serait-ce aussi que par rapport à savoir en termes de débouchés, les métiers en tension ou pas, les métiers porteurs. Voilà.
Mmh. Ouais, puis même pour découvrir, pour construire un projet professionnel quand on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, j'imagine que c'est pas mal de faire des petits stages pour tester aussi.
Le plus possible si on peut, oui, tout à fait. Après, c'est pas... Le contexte au Covid n'a pas aidé là-dessus, forcément, parce que les entreprises prenaient de moins en moins de jeunes en stage d'observation, mais effectivement, il n'y a rien de mieux que de pouvoir être mis en situation pour faire soi-même une auto-évaluation de ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, de ce qu'on imagine être capable de faire ou pas, de voir comment on se passe le travail en entreprise.
Et à propos de contexte Covid, je rebondis, mais est-ce que vous avez eu accès à des études ou est-ce que vous avez constaté dans votre pratique ces cas de déscolarisation liés en fait à l'école à distance, non, pas encore.
C'est... je me suis pas vraiment penchée là-dessus. Comme
vous n'avez pas eu un afflux de demandes de parents qui disent, oui, mais mes enfants sont déscolarisés depuis la Covid et puis.
Alors ma création d'activité est relativement récente, donc c'est pas quelque chose que j'ai mesuré en effet. Non. Mm-hmm. Je peux pas vous faire un retour. J'avoue.
C'était à tout hasard. Et alors pour les élèves, les jeunes qui sont un peu plus âgés, enfin justement, on a commencé à l'aborder sur Parcoursup. Mm-hmm. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter là à eux ?
Alors sur Parcoursup, Parcoursup, on parle de Parcoursup, mais globalement, s'il s'agit aussi de déterminer finalement un projet d'orientation, une cible ou des cibles métiers, ou en tout cas au moins un secteur d'activité, pour effectivement déterminer quelle formation choisir. Donc là, j'accompagne en fait sur une prestation qui correspond à finalement un bilan global d'orientation, même s'il y a Parcoursup qui est un élément incontournable. Et c'est vrai qu'il va y avoir une grosse partie qui va, à partir du moment où Parcoursup va rentrer en fonctionnement, hein, forcément la plateforme, il y a une grosse partie qu'on consacre effectivement à définir les objectifs et une certaine stratégie de cibler des formations qui correspondent au secteur d'activité, au métier, à l'objectif professionnel. Mais en amont, bien sûr, ce qu'on fait, c'est que je travaille donc avec les jeunes terminales sur définir leur cible professionnelle. Voilà.
Et alors, ça dure combien de temps une session d'accompagnement ? Enfin, évidemment, ça varie selon les gens, j'imagine, mais en gros, quoi.
Et alors, en fin de compte, j'ai plutôt établi, on pourrait dire, une sorte de catalogue de prestations par rapport aux différents besoins, que ce soit l'orientation scolaire post-bac ou un bilan de réorientation ou une orientation pour un jeune en troisième, finalement. Là, dans le cadre de l'accompagnement de lycéens pour leur orientation post-bac, ce sont des prestations d'entretien individuel d'une base de 5 heures. Après,
pas d'affilée, j'imagine.
Non, bien sûr, différentes étapes successives. Mais par contre, entre chaque entretien, il y a des suivis réguliers par téléphone, par mail. On communique, je communique assez facilement. Et finalement, mes accompagnés aussi, les jeunes sont habitués à ça. Donc voilà, aussi un suivi un petit peu à distance, on peut dire. Mais voilà.
Et dedans, peut y avoir aide à la rédaction de la lettre de motivation pour Parcoursup.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le projet de formation motivée dans le jargon et dans la plateforme Parcoursup. Mais tout à fait, ça en fait partie, effectivement.
Et vous pouvez faire une session collective avec les parents sur là, on va remplir les choix Parcoursup. Enfin, j'imagine. C'est pas vraiment ça.
Ça n'a pas été le cas, ça ne serait pas forcément adapté. À partir du moment où je prends en charge, toujours dans le cadre Parcoursup, un lycéen pour son accompagnement sur l'ensemble de son projet d'orientation, je travaille uniquement avec le jeune finalement. Mmh. Donc après, c'est aussi une façon justement de les autonomiser sur la globalité de la démarche, parce que c'est vrai que, comme ça a été dit judicieusement au début d'émission, de toute façon, dans le cadre d'un déroulement de carrière, au fur et à mesure de leur vie, seront amenés à entrer sur cette dimension d'être capables de s'orienter tout au long de la vie, finalement.
Mais ça, les parents ont peut-être besoin de l'entendre. Enfin, j'imagine que c'est surtout les parents qui vous contactent pour les demandes de prestations, mais ils ont peut-être besoin de l'entendre. Parfois, les parents, ils projettent aussi, non ?
Oui, alors ce que je fais par contre, c'est que à chaque entretien de suivi, il y a une petite synthèse bien sûr qui est transmise et remise aux parents. Ça peut être par mail, ça peut être de vive voix des fois quand je les croise. Mais de toute façon, voilà, à leur niveau, au niveau des parents, après c'est vrai que le suivi, l'information par rapport à la progression, je la fais en tout cas de cette manière-là. Mmh.
Alors là, j'imagine que c'est peut-être un peu tôt pour savoir quels sont les résultats, si vous avez réussi vraiment à éclairer la lanterne de certains.
le résultat, vraiment, on peut dire qu'il sera connu à partir du moment où il y aura les réponses de Parcoursup, mais ce sera plus le fait de savoir si effectivement les jeunes ont obtenu les choix qui étaient visés, qui étaient ciblés. Mais sinon, en tout cas, moi, les retours que j'ai de vive voix sont très positifs. Hein, donc, c'est bien pour eux. Moi, mon but, c'est d'être utile. Et puis, c'est bien pour moi aussi, parce que j'ai la satisfaction, oui, finalement, d'être vraiment utile également. Ouais. C'est ce que je voulais faire. Ouais.
Vous les aidez à se découvrir. Et est-ce qu'il pourrait vous arriver d'accompagner des jeunes, en plus, en situation de handicap, enfin, ou de troubles, je sais pas, type autistique, ou troubles de l'attention, enfin,
Alors,
moins,
dans,
peut-être, c'est plus spécialisé.
Dans l'immédiat, ça... J'ai pas été sollicitée par des parents et des enfants dans ce type de situation. Moi, je suis pas spécialisée effectivement sur cette prise en charge-là. Je sais pas si ça arrivera. Mon job, c'est vraiment le conseil en orientation de toute façon. Donc après, est-ce qu'il faut faire un cas de figure spécifique dans ces cas-là ? Je ne sais pas. Franchement, la question, c'est pas posée encore. C'est tout à fait envisageable. Enfin, joker.
D'accord. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques tuyaux, quelques conseils, en dehors du fait de vous consulter, bien sûr ?
C'est vrai que c'est une thématique qui devient un enjeu important, hein, au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle, parce que c'est vrai que tout le monde cherche à avoir une orientation sur un domaine qui plaît, un métier qui plaît effectivement, mais un métier qui sera porteur et qui permettra une bonne insertion. Donc un conseil global, je dirais anticiper. Anticiper ces étapes-là. Ouvrir le dialogue le plus tôt possible aussi sur les questions d'orientation finalement entre parents, enfants, famille. Je dirais aussi se positionner dans une approche de tous les jours qui est un petit peu orientante, dans le sens où des fois, en étant curieux sur les métiers, les secteurs d'activité, finalement, des choses toutes simples comme ça, on aide les jeunes à s'ouvrir et à découvrir des choses qui pourront faire le lien un jour entre eux, leur potentiel et un métier.
C'est quoi, c'est aller à des salons d'artisanat ou non, des choses comme ça.
Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi, par exemple, récemment, il y a eu la semaine des métiers, effectivement, de l'artisanat métier d'art. Ça peut être faire des visites de ce type-là. Ça peut être quand on est quelque part, je sais pas, vacances ou autre. Des fois, il y a même des visites d'entreprise qui sont organisées parfois par les CCI ou autres. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, qui sont toutes simples. Mais en fait, la difficulté des jeunes scolarisés, c'est de mieux connaître les métiers, les secteurs d'activité des entreprises.
Ouais, voilà, il y en a tellement, et puis ça bouge, certains évoluent beaucoup. D'accord, très bien. Eh bien, on va vous remercier, Patricia Piva. Alors, ça s'appelle TOPS 29, c'est ça, ton orientation professionnelle et parcours scolaire en Finistère.
C'est bien ça.
Vous intervenez dans tout le Finistère, en
gros. Oui, globalement. Je suis basée un petit peu plus quand même sur le secteur nord et centre Finistère, on va dire. Je reçois dans les tiers-lieux du secteur, en tout cas. Donc, après, sur le Finistère sud, pourquoi pas? Bon, globalement, dans une zone, en tout cas, qui va correspondre plutôt à nord-centre Finistère.
Bon, on mettra toutes vos coordonnées sur le site de Radio Évasion, où vous pourrez réécouter le podcast aussi dès ce soir. Merci.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.